Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
En ce 19 octobre, nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence Lourdes-Pyrénées, de Radio La Pourdi-Iratia. Un petit mot quand même, Monseigneur, depuis notre dernière émission, vous avez perdu votre maman et je crois que beaucoup de diocésains vous ont manifesté leur soutien et leur solidarité à ce moment-là.
Oui, oui, j'étais très touché par les manifestations, en effet, d'amitié, d'affection même, de beaucoup de prêtres, de fidèles du diocèse, alors que j'étais en Bretagne, évidemment, puisque mes parents sont en Bretagne, comme vous le savez. Et même le jour des obsèques, j'ai eu la joie de voir au moins 5 prêtres du diocèse, 4 séminaristes, enfin, même des jeunes de la Maison Samuel qui étaient là pour m'entourer, même des fidèles, même de Cambo, qui sont venus. Et donc j'étais extrêmement touché de cette belle manifestation de familiale, en tout cas, de compassion et d'amitié.
Un grand moment, en cette rentrée, ça a été le pèlerinage, comme chaque année, à Lourdes, avec tous les malades du diocèse, accompagnés par l'hospitalité basco-béarnaise, et il y avait un invité de marque cette année.
Oui, le cardinal. Notre cardinal Etchegaray, qui a fait le pèlerinage comme un simple pèlerin et même parmi les malades à l'hospitalité, car vous savez qu'il n'est pas en très grande forme, tout en ayant eu ses 95 ans il y a peu de temps. Et j'ai profité de cette occasion pour lui remettre au cours de la messe du pèlerinage diocésain, c'est-à-dire du dimanche, avec en présence de près de 4000 fidèles, une bénédiction spéciale que le pape avait signée de sa main à l'occasion de ses 70 ans de sacerdoce, qui datait du mois de juillet sans doute, mais c'était une belle occasion pour pouvoir lui remettre, et je crois qu'il en a été très touché, et les fidèles ont pu aussi manifester leur fierté, hein, et leur sens de l'Église aussi à l'occasion de ce geste.
Vous accompagnez les malades tout au long du pèlerinage, du vendredi jusqu'au lundi.
Voilà, moi j'arrive le vendredi au début du pèlerinage jusqu'à la fin. Et c'est vrai que c'est un très grand moment. 1200 hospitaliers, dont 200 jeunes de nos établissements souvent catholiques, qui font une expérience unique et inoubliable. 463 malades cette année, une hospitalité qui fonctionne extrêmement bien, qui manifeste une très grande vitalité avec tous les ans des nouveaux engagés,
et même
des jeunes.
Une nouvelle présidente.
Une nouvelle présidente aussi, qui a pris ses fonctions avec beaucoup de compétences et de discrétion. Hein. Et donc, pour moi, c'est un grand moment pour la rentrée du diocèse, en particulier le dimanche, hein, où tous les diocésains sont appelés à nous rejoindre. Il y avait d'ailleurs pas mal de prêtres qui avaient pu se libérer, hein, le dimanche matin. Et c'est l'occasion, d'un rassemblement ecclésial dans une atmosphère de grande charité qui circule. Et c'est vrai que c'est un excellent moment pour faire passer aussi un message et qui permet aussi, de tous entrer dans cette nouvelle année pastorale.
Alors un autre rassemblement, plus récemment, c'était la journée des catéchistes à Salis de Béarn, c'était le 26 septembre dernier. Le thème cette année, c'était l'Eucharistie. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit sur ce thème de l'Eucharistie ?
Alors comme on avait beaucoup passé de temps les deux dernières années sur les sacrements d'initiation chrétienne et la question de l'ordre des sacrements, qui est toujours d'ailleurs à l'étude et toujours en consultation dans le diocèse, on avait beaucoup insisté sur la confirmation évidemment, puisque c'était sa place qui détermine un petit peu les choses pastorales. On a parlé surtout du baptême et la confirmation, qui vient confirmer, comme son nom l'indique, le baptême. Donc il fallait parler aussi du troisième sacrement d'initiation chrétienne. Et c'est une commande qui m'avait d'ailleurs été faite par le service lui-même, c'est-à-dire par Domi Pomies, la responsable diocésaine, et son assistante, sœur Geneviève, de la famille missionnaire de Notre-Dame. Et je crois que l'essentiel, c'était de donner du contenu. Souvent, les catéchistes venaient à cette réunion pour avoir des trucs pédagogiques. Je pense qu'il y a d'autres moments pour ça. Et je remercie d'ailleurs le service diocésain d'aller un peu plus sur le terrain et d'aller à la rencontre des besoins, des joies et des difficultés des catéchistes sur le terrain, dans les doyennés, dans les paroisses. Et là, c'est aussi l'occasion d'approfondir des thèmes importants de la foi, pour transmettre la foi, parce que la catéchèse, c'est d'abord la transmission de la foi. Et il ne faut pas que la pédagogie mange le contenu. C'est une des grands risques, hein, de la catéchèse depuis un certain nombre décennies. Je me rappelle de cette grande conférence à Paris et à Lyon du cardinal Ratzinger, à l'époque préfet de la Congrégation pour de la foi, en 83-84, je ne sais plus, et qui justement abordait ce thème. Et en leur disant que la grande pédagogie, c'est la pédagogie divine, celle que l'on trouve dans l'Évangile, dans l'Écriture sainte, et qui nous fait entrer dans le mystère, hein, qui est accessible à la foi. Donc j'aurais parlé surtout de ce grand mystère de l'Eucharistie.
Le 8 septembre dernier, vous nous avez fait l'honneur d'être à Ustaritz pour célébrer les 25 ans de Radio Lapourdi. C'était important pour vous d'être avec les bénévoles et les salariés de la radio ?
Ah bien sûr, parce que Radio Lapourdi est encore, est vraiment dans son intention d'ailleurs, dans le projet initial, dont les pères fondateurs, si je puis dire, étaient là, et dans la continuation de cet instrument de communication, un lieu d'annonce de l'Évangile. Et de communion autour de cette annonce de l'Évangile avec les auditeurs qui, d'une certaine manière, rejoignent cette grande communauté de l'Église, sachant que Radio Lapourdi n'est pas écoutée que par des chrétiens. Et donc ça reste un organe de diffusion et de transmission de l'Évangile qui est tout à fait à l'ordre du jour de la nouvelle évangélisation. Et donc je pensais important d'être là pour remercier aussi tous ces bénévoles, les salariés que vous êtes, mais aussi les bénévoles qui donnent de leur temps pour justement relier les événements de la vie du diocèse, relayer les événements de la vie du diocèse à l'ensemble de la communauté diocésaine.
Et c'est un outil qui coûte cher, on l'entend souvent de la part de l'économat diocésain.
C'est vrai que c'est un outil qui coûte cher, je pense que c'est important aussi de le rappeler aux auditeurs, qu'actuellement c'est une subvention de 100 000 euros pour Radio Lapourdi, 25 000 euros à peu près pour Radio Présence par an, donc c'est quand même ça a du poids dans notre budget diocésain. Et donc, il faut évidemment que nous soyons à la hauteur de l'investissement, toujours plus.
Je vous annonce un petit événement qui aura lieu pour aider au financement de la radio, justement, le 30 décembre. C'est un samedi. Il y aura un concert d'orgue offert par Thomas Hospital pour la radio à l'église de Cibourg en soirée. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir le samedi 30 décembre en soirée à Cibourg.
Alors, on a fêté un autre anniversaire, Monseigneur. Vous n'y étiez pas puisque vous étiez à Barzin pour faire un éloge à Monseigneur Théas. C'était les 30 ans de la formation permanente du Béarn. Là aussi, un événement important de fêter un anniversaire pour cette formation donc, qui permet à beaucoup de gens dans le diocèse de se former tout au long de l'année.
Bien sûr, là aussi, j'avais été très frappé quand j'étais arrivé dans le diocèse de cette institution de la formation permanente qui, c'était davantage vrai autrefois, et en tout cas c'est toujours vrai au Pays Basque, mais c'est vrai aussi au Béarn, et est une formation décentralisée. Ce qui permet aussi de rejoindre le plus de monde possible en évitant que tous viennent au centre, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent pour le Béarn au CDB, à Pau, mais qui permettait, avec des formateurs, comme l'abbé Casanave, comme l'abbé Jean-Pierre Etcheverry, dans le Pays Basque, d'aller dans les doyennés pour régulièrement faire des formations et rejoindre les gens sur leur terrain, ce qui facilite forcément l'accès à cette formation permanente. Donc je crois qu'elle a porté beaucoup de fruits pendant ces 30 ans et qu'il était bien normal de manifester aussi la reconnaissance de l'église diocésaine, pour ces 30 ans de formation permanente où j'étais évidemment représenté par le vicaire général. Donc je n'étais pas absent puisque mon vicaire général était là. Mais moi j'étais pour les 40 ans de la mort de Monsieur Théas, qui est une grande figure de l'église de la guerre et d'après-guerre. Et donc avec Monsieur Brouvet et pas mal de monde, nous avons évoqué cette belle mémoire.
Après 4 mois passés dans le diocèse, Notre-Dame de Fatima vient de repartir au Portugal. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à l'occasion de ce départ? Et peut-être surtout à ce qui s'est vécu avec Notre-Dame de Fatima dans le diocèse pendant ces 4 mois?
Mais je crois qu'il y a beaucoup de paroisses qui ont pu l'accueillir. Ils disent tous que ça a été des grands moments de rassemblement paroissial, au-delà des paroissiens habituels. Je pense par exemple à Pau, où ils ont fait une grande procession dans les rues de la ville. L'église Saint-Jacques était pleine pour la messe et on pense qu'il y avait encore plus de monde pour la procession qui a suivi. Et le curé me disait, j'ai vu là quantité de visages que je ne connaissais pas. Donc je pense que ces manifestations de piété populaire sont des instruments authentiques d'évangélisation qui permettent de rejoindre des gens qui sont loin, mais par la sensibilité, la beauté, la piété, eh bien beaucoup de gens se sentent concernés. tout en n'étant pas forcément des piliers d'église. Donc ça a été pour ça une belle expérience. Certaines paroisses ont vu le train passer et auraient voulu l'accueillir aussi, puis c'était trop tard. Bon, voilà, c'est toujours comme ça. Et puis il faut dire qu'il y a eu l'été entre son arrivée et son départ, où il y a évidemment un peu plus de démobilisation dans les paroisses à cause des vacances.
Alors, dernier événement dont on peut parler, Monseigneur, c'est l'Assemblée Générale de l'Association Diocésaine qui a eu lieu le 11 octobre à Orthès. Quels ont été, en gros, les sujets évoqués lors de cette Assemblée Générale?
Alors, vous savez que l'Assemblée Générale, statutairement, c'est la présentation des comptes, de résultats et des bilans que nous faisons d'une année d'exercice. Donc ça, c'est l'expert comptable qui présente les comptes, c'est le commissaire aux comptes, qui est un nouveau commissaire aux comptes, qui est appelé à certifier les comptes, et finalement c'est l'économe diocésain qui essaie de relire un certain nombre de points sur lesquels il faut insister, et puis en faisant des focus et proposer des préconisations qui ont été évidemment étudiées précédemment au Conseil diocésain économique, et puis moi je donne la conclusion. Cette année, je crois que nous avons essayé de travailler davantage en amont au Conseil diocésain des affaires économiques, la manière de présenter les comptes, parce que, comme vous le savez, il y a des points d'assistance toujours, c'est la masse salariale qui est à maîtriser, et elle est en cours de maîtrise, justement. C'est l'immobilier, l'investissement immobilier, diocèse et paroisse, confondu, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'association diocésaine, c'est un ensemble qui comprend ce que nous appelons désormais les services communs, ce qu'on appelait autrefois curé service, mais ça semblait mettre une opposition entre l'évêché et les paroisses. Or, nous faisons tous cause commune parce que c'est une seule association et les services et la curie sont au service précisément des paroisses. Donc on parle des services communs et des paroisses. Et ce sont toujours les comptes additionnés que l'on présente, évidemment. Bon, comme nous le savons, nous avons un déficit de fonctionnement assez important qui n'est plus tout à fait compensé par les dons exceptionnels, c'est-à-dire les cessions et les legs et les produits financiers, parce que c'est vrai que de ce côté-là, la crise financière est passée, et donc ben, nous piochons de plus en plus dans la trésorerie, ce qui met à mal la pérennité de notre institution, sachant que la trésorerie qui travaille sert à l'ensemble de la collectivité, avec des distorsions entre des paroisses pauvres et des paroisses riches, et donc ben, le maître mot d'une assemblée générale comme celle-là, et je crois que nous avons fait œuvre cette année d'un peu plus de pédagogie que d'habitude, c'est la solidarité, non seulement entre les paroisses et les services communs, mais aussi entre les paroisses entre elles. Et ce qui suppose un modèle économique qui est encore à rôder, qui permet de faire contribuer davantage les paroisses, non seulement aux investissements immobiliers, par un fonds commun de solidarité, mais aussi par les services communs, par cette contribution des paroisses à la vie diocèse. Chose toujours nouvelle, qui commence à entrer dans les mœurs, même si nous sommes très en retard par rapport à la plupart des diocèses, mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place et qui permettront peut-être d'assainir toujours plus nos finances.
L'argent de l'Église est toujours au service de la mission, c'est le sujet que nous allons aborder dans quelques instants.
Radio La Pourdi, Ratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous poursuivons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet. Nous allons parler maintenant de la mission de l'Église, puisque c'est vrai que, selon l'expression du pape François, nous sommes tous appelés à être des disciples missionnaires. C'est quelque chose d'important pour vous. Par quels moyens est-ce que vous souhaitez continuer à insuffler cet élan missionnaire cette année dans notre diocèse?
Alors, c'est sûr que c'est une obsession maintenant, depuis que je suis arrivé dans le diocèse, en particulier depuis ma lettre pastorale « La charité du Christ nous presse l'urgence de la mission ». Et d'ailleurs, l'un de mes vicaires épiscopaux me disait « ce serait peut-être bon qu'on fasse un point d'étape par rapport à cette lettre » qui voulait insuffler un certain esprit missionnaire être à l'origine d'un nouvel élan missionnaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parler de nouvel élan missionnaire ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'élan missionnaire avant. C'est toujours le risque. Quand on lance des idées nouvelles ou des initiatives nouvelles, c'est de faire croire que tout ce qu'il y a eu avant n'était pas missionnaire et qu'on le devient enfin. Non, on n'a pas évidemment la prétention
ou la naïveté de penser que, à partir du moment où on a écrit une lettre pastorale qui veut insuffler un nouvel élan, on découvre la mission. Bien sûr que nos prêtres et nos fidèles, depuis des décennies, sont alertés par cette nouvelle conscience missionnaire que le Concile Vatican II et les papes successifs depuis le Concile ont essayé d'insuffler à l'Église. En termes de nouvelle évangélisation, ça c'était la grande expression de Jean-Paul II, qui a été reprise évidemment par ses successeurs. Là, surtout, je pense que cette lettre pastorale, elle a été confirmée, si je puis dire, par une exhortation apostolique qui est fondatrice aussi pour nous, pour les années qui viennent, qui est celle du pape François, la joie de l'Évangile. Voilà. La joie de l'Évangile qui reprend d'ailleurs les grands thèmes d'un document qui était paru en 2007, sur lequel je me suis beaucoup appuyé moi-même dans ma lettre pastorale, qui était le fameux document d'Aparecida, hein, la conférence de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes, dont Monsieur Bergoglio, qui était à ce moment l'archevêque de Buenos Aires, a été l'un des artisans principaux et qui avait été présidé à ce moment-là par le pape Benoît XVI. Et c'est là qu'on trouve cette fameuse expression que j'avais déjà employée dans ma lettre pastorale de « disciple missionnaire ». Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple missionnaire, comme dit le pape François ? Eh bien, c'est d'abord un disciple de Jésus qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et qui devient nécessairement missionnaire, c'est-à-dire qu'on a envie de partager cette expérience avec ceux qui sont loin, hein, il nous avait habitués à cette expression, des périphéries. Et je crois que toute la réflexion pastorale que nous menons dans le diocèse, eh bien, est là pour nous dire comment nos communautés chrétiennes, qui connaissent quand même un certain nombre de déclins, qui sont toujours en état de mission, ne serait-ce qu'à pas à partir des démarches sacramentelles, des obsèques, etc., de tous ceux qui viennent du seuil ou de loin, qui demandent encore quelque chose à l'Église, eh bien, comment cette communauté va rejoindre ceux qui sont éloignés, ceux qui sont indifférents, ceux qui n'appartiennent pas à nos assemblées.
C'est le fameux sortir.
L'Église en sortie missionnaire. Voilà. Hein, comme je le dis souvent, on pourrait, de manière très schématique, dire que tout ce projet pastoral consiste en quelques mots. Une Église communion, recentrée sur le Christ, en sortie missionnaire.
Alors, il y a 2 ans, vous avez proposé un rassemblement à Pau sur paroisse en mission. Vous parlez aussi des pôles missionnaires. Alors, où est-ce qu'on en est un peu dans notre diocèse ?
Alors, vous rappelez qu'il y a 2 ans, à peu près, c'était donc le forum communion évangélisation sur le thème paroisse en mission où nous avions fait venir un certain nombre de témoins, qu'ils viennent de l'extérieur d'ailleurs ou qu'ils viennent du diocèse, pour partager un certain nombre d'expériences missionnaires et permettre aussi un échange avec tous les participants sur des initiatives missionnaires un peu innovantes qui fleurissent un peu partout dans l'Église, dans les autres diocèses, comme chez nous d'ailleurs. Hein. Bon, ça a été, comme vous le savez, reçu de manière assez mitigée par certains, enthousiaste par d'autres. C'est toujours comme ça. Hein. Je pense qu'il ne faut pas rêver, on ne fait pas l'unanimité non plus sur tous les projets pastoraux missionnaires d'un diocèse.
Qu'est-ce qui bloque, d'après vous, justement ?
Justement, j'essaie de comprendre parfois. Je me dis qu'on change un peu de paradigme par rapport à des paradigmes dans lesquels on était bien installé dans le diocèse. Et d'ailleurs, c'était toute la richesse du diocèse qui s'exprimait à travers ça. On a toujours les défauts de ses qualités. On a un clergé qui était nombreux, qui était rompu à un certain nombre de méthodes pastorales, d'évangélisation, qui ont d'ailleurs porté du fruit, mais qui ont aussi un peu fait leur temps. Hein. C'était l'Action catholique. Alors quand je dis ça, j'ai pas enterré l'Action catholique pour autant. Et je continue à dire à un prêtre pour qui c'est vraiment le moyen d'annoncer l'Évangile, bah, que dans sa paroisse, il peut promouvoir ce moyen de l'Action catholique de toute manière. Hein. Il a toute latitude pour ça. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'Église universelle, statistiquement, on voit bien qu'il y a des méthodes d'évolution qui sont liées à des époques. Ça ne veut pas dire que parce que l'époque est révolue, c'était pas bien. Ça veut dire qu'on a changé de paradigme, on a changé d'époque.
De logiciel peut-être.
Et de logiciel, oui. Voilà une bonne expression qui rejoint bien la mentalité de notre temps. Et il faut entrer dans un nouveau logiciel. C'est pas forcément facile et tout le monde peut pas forcément y arriver. Et tout le monde peut pas forcément s'y adapter. C'est sûr que ça parlera peut-être davantage à des nouvelles générations. Ça ne veut pas dire qu'on met au rencard ceux qui ont précédé. D'abord, ils n'ont pas démérité et ils continuent sur le terrain à être missionnaires. Mais il faut aider tout le monde à Une conversion pastorale, c'est la grande expression du pape François, n'est-ce pas, dans son exhortation à la joie de l'Évangile. Et quand on parle de conversion, on parle de retournement, et donc c'est pas facile. En allant à la rencontre des doyennés, ce que j'ai commencé à faire comme je m'y étais engagé, je me rappelle de prêtres qui me disaient « Bah oui, mais c'est pas facile d'entrer dans une conception comme ça, que annoncer l'Évangile à n'importe qui. Ben, je dis pas que c'est facile, le pape parle de conversion. Ça n'a jamais été facile de se convertir. » Puisqu'il s'agit de changer de mentalité, de regard. C'est même pas forcément changer d'action. Après les actions, on sera tous inventifs d'action. Il n'y a pas de recette clé en main. Il n'y a pas de recette toute faite. Il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, paroisse en mission était le partage d'expériences pour susciter une réflexion et un engagement missionnaire. Pas du tout pour dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Voyez. Alors, ça a été le lancement de quelque chose.
L'épaule missionnaire, alors ça consiste en quoi exactement?
Alors justement, l'épaule missionnaire, donc avec le conseil épiscopal, on a, à la suite de cet événement de paroisse en mission, qui était l'événement diocèse en fête, hein, comme nous le connaissions déjà depuis un certain nombre d'années, a réfléchi sur une feuille de route, un projet de feuille de route pour mettre en place des pôles missionnaires. Alors justement, ça a permis d'être discuté en doyenné, puis au conseil présbytéral, et de se rendre compte qu'il faut reformuler les choses. Les choses n'ont pas été formulées forcément dans l'ordre. Là où on était parti du territoire, en disant un pôle missionnaire, c'est un territoire, un peu plus large peut-être parfois qu'une paroisse, animé par une équipe de prêtres, éventuellement une communauté de consacrés, qui vont susciter parmi les fidèles une fraternité missionnaire qui va porter davantage le souci de l'annonce de l'Évangile à ceux qui sont éloignés. Donc au-delà de ce qui rassemble habituellement la communauté chrétienne et pour lesquels il faut des animateurs qui fassent fonctionner notre communauté dans ces trois munera, tria munera, annoncer, célébrer, servir, comme on l'a souvent dit par le passé. Voilà. C'est ça le but. Alors aujourd'hui, après avoir mis cette feuille en discussion par les prêtres et le conseil prélatéral, eh bien, nous en arrivons à l'idée qu'il faut commencer à partir de la communauté. Et donc, je dirais qu'un pôle missionnaire, ben, c'est une fraternité composée de prêtres, éventuellement de consacrés, de fidèles laïcs, qui vont, dans une ecclésiologie de communion, porter le souci d'annoncer l'Évangile en sortie, vers ceux que nous ne touchons plus habituellement dans les paroisses. Pour vous donner un exemple, j'étais dans une réunion de doyenné très récemment. Un prêtre qui est plutôt dans le rural, bien implanté dans sa culture basque, me dit « Vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Parce que moi, depuis que je suis arrivé dans mon presbytère depuis un an, personne n'est jamais venu frapper à la porte de mon presbytère. Et moi aujourd'hui, quand je vais dans les rues de la commune, personne ne me dit bonjour. » Mais je dis « Mais vous passez d'une situation où il y avait un prêtre par clocher, où vous étiez en osmose avec une communauté humaine, qui d'ailleurs venait facilement à l'église et vous alliez facilement les visiter pour prendre l'apéro ou pour vous préoccuper de leurs difficultés humaines. Aujourd'hui, vous êtes dans des grands territoires, beaucoup moins nombreux, parfois un peu enfermés dans le culte, les obsèques, les messes d'horaire, les baptêmes, les catéchismes, les préparations au mariage, pour un peu la portion congrue de votre paroisse, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux à inscrire leurs enfants au catéchisme, à venir demander un mariage, à venir demander des obsèques chrétiennes, enfin en tout cas dans le milieu urbain. Bon. Et donc, vous êtes démunis, même si tout ce que vous le faites de manière très missionnaire, je pense en partie aux obsèques, et moi j'ai entendu cette année une catéchumène adulte qui est revenue et qui a demandé le baptême parce que, lors des obsèques de sa grand-mère, je ne sais pas dans quel coin du Pays Basque, le curé l'avait interpellée dans sa prédication, et donc elle a rencontré Jésus-Christ comme ça. Donc ça fait partie aussi de la mission d'évangélisation. Mais vous ne pouvez plus aller maintenant vers les gens qui ne sont pas là, parce que vous avez moins de temps, et aussi pour proposer l'Évangile. Donc vous avez besoin de mutualiser vos forces avec des laïcs, avec des consacrés, avec d'autres prêtres, pour essayer d'inscrire dans votre pastorale, outre la pastorale ordinaire qui fera toujours assumer, une pastorale qui aura une dimension d'itinérance missionnaire, et qui ira à la rencontre d'eux, avec le message de l'Évangile, bien sûr, parce qu'il s'agit bien de transmettre l'Évangile à ceux qui sont loin.
Pour ce faire, vous avez rénové le cycle de formation des animateurs de communautés chrétiennes, le CIFAC, qui s'appelle désormais le parcours Cléophas. Il y aura une première session les 8 et 9 décembre. Alors, de quoi s'agit-il et qui est invité à participer à, alors, à ce type de formation?
Alors, comme vous le savez, j'avais demandé de mettre en veilleuse le CIFAC, qui était le cycle de formation des animateurs de communautés chrétiennes, au bout de 20 ans d'exercice et de bons et loyaux services, qui a formé, pour accompagner la mise en place des nouvelles paroisses à l'issue du synode de 1992, la formation des animateurs de communautés chrétiennes. Voilà. Animateurs de communautés chrétiennes qui étaient des fidèles missionnés par leur curé ou par leur responsable de service ou de mouvement, qui acquéraient une formation fondamentale, ecclésiologique principalement, donc acquéraient aussi une conscience diocésaine et apprendre une responsabilité dans l'animation de la communauté chrétienne, qui dans la catéchèse, qui dans la diaconie, qui dans la liturgie, qui dans le service des malades ou la pastorale du deuil. Très bien. Formation plus spécifique, apportée d'ailleurs principalement par les services concernés. Aujourd'hui, pourquoi je demandais ça? Pour servir à ce projet pastoral qui est comment faire pour que nos communautés chrétiennes rejoignent ceux qui sont loin. Donc c'est vrai qu'on a mis en veilleuse la formation d'animateurs de communautés chrétiennes qui demeure nécessaire et qu'on peut former aussi par les services concernés, mais un parcours de formation aux fidèles, dans toute leur diversité, toujours missionnés, envoyés par leur curé ou qui vont vouloir faire ce service, mais à condition d'être en lien avec leur curé ou leur responsable de service ou de mouvement, et où la formation sera davantage axée sur justement cet engagement missionnaire, former des disciples missionnaires, et des gens qui non seulement auront besoin des fondamentaux qui étaient déjà offerts par le CIFAC, mais qui vont comprendre ce parcours Cléophas, précisément, de formation des disciples missionnaires. Cléophas, du nom de l'un des deux disciples d'Emmaüs, hein, qui ont rencontré Jésus sur le chemin et qui ont cheminé avec lui, et puis qui ont fini par être brûlés dans leur cœur par la parole qu'il leur dispensait, et qui l'ont reconnu dans la fraction du pain, et qui, après cette expérience du Christ, vivant et ressuscité, sont retournés à Jérusalem pour témoigner de ce qu'ils avaient, de l'expérience qu'ils avaient faite auprès des autres qui n'avaient pas encore rencontré Jésus. Vous voyez? Donc ça, c'est fondamental. Ça veut dire que ce parcours est conçu essentiellement comme un compagnonnage à travers deux années comme le CIFAC avec Jésus, en insistant beaucoup sur l'approfondissement de cette relation, de cette expérience de Jésus ressuscité, à travers les mêmes ingrédients que le CIFAC, la parole de Dieu, la prière, les fondamentaux de l'enseignement de la foi, que l'on puisera dans le UCAT, hein, qui est ce fameux catéchisme à l'intention des jeunes qui avait été fait justement pour transmettre la foi de manière plus moderne, plus adaptée à la mentalité d'aujourd'hui.
Qui est même traduit en basque aujourd'hui.
Et qu'on a même acquis en basque, puisqu'il a été traduit en basque, et Monsieur Mounia m'a proposé d'en acheter des exemplaires, donc on en a pris un bon nombre qui sont en vente à Catechea, à la librairie Catechea. Bon. Et donc, si vous voulez, avec une importance sur l'accompagnement spirituel, sur ce parcours, et sur la relecture de son itinéraire sous forme de témoignage, afin que chacun puisse faire le témoignage de sa rencontre et pouvoir le dispenser ensuite, puisqu'on est là pour former les disciples missionnaires. Le but, dans la deuxième année plus pratique, sera de faire des expériences missionnaires innovantes, par exemple participer à un parcours alpha, une semaine missionnaire, découvrir des démarches missionnaires un peu innovantes, et de manière à former des disciples missionnaires qui, dans leur paroisse, dans leur service ou dans leur mouvement, eh bien, aideront à la constitution de cette fraternité missionnaire autour des prêtres pour porter des initiatives missionnaires dans leur paroisse.
Sur deux ans, combien de rencontres?
Alors, en fait, il y aura quatre rencontres par an, là où il y en avait sept, au CIFAC, qui auront lieu du vendredi 18h au samedi 18h, ce qui permet de libérer le week-end pour les familles, et qui seront surtout entrecoupées, si je puis dire, enfin préparées en amont par un travail de lecture, de questions-réponses aussi avec les intervenants par Internet.
Le responsable de la formation, à qui faut-il s'adresser ?
Alors, je crois qu'il y a des flyers qui sont distribués un peu partout. Je n'ai pas le nom du parce qu'on s'inscrira en ligne. Hein, on s'inscrit sur le site du diocèse. Il y aura parcours Cléophas, je crois, .org. Et à partir du 1er novembre, où le site sera actif, et toujours en lien avec son curé ou son responsable de service. Et la responsable de cette équipe sera Catherine-Marie Chassagne, avec tout un petit groupe de personnes, dont des prêtres, en particulier l'abbé Dominique Nalis.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Haillé, évêque de Bayonne-Escaré au Laurent. Alors, Mgr Haillé, il y a eu cette fameuse exhortation apostolique du pape Amoris Laetitia. Où en est l'accueil de cette exhortation apostolique dans l'Église? On en parlera aussi peut-être sur notre diocèse spécifiquement. Après la doubia de 4 cardinaux, une pétition signée par une soixantaine de prêtres et de laïcs proches des milieux traditionnalistes accuse le pape de propager l'hérésie. Les prêtres et les évêques de Lyon ont rencontré le pape, et lors de cette rencontre, le pape a rappelé que derrière l'exhortation apostolique, la joie de l'amour, il y a saint Thomas d'Aquin, mais la grande théologie thomiste et pas la scolastique décadente, ce sont les termes du pape. Le pape a insisté sur le fait que le discernement doit aller avec l'écoute et l'accompagnement, que ce n'est pas la morale et la théologie qui sont premières, mais l'évangile. Alors, comment vous recevez toutes ces récriminations contre le pape, vous êtes évêque, vous allez à Rome, comment vous vivez tout ça?
Alors d'abord, si je puis me permettre, dans tout ce que vous avez dit, il faut quand même distinguer entre les fameux doubia, qui sont des interpellations, je crois d'abord respectueuses, d'un certain nombre de cardinaux intéressés par ces questions, dont deux sont déjà morts d'ailleurs. Je pense en particulier au cardinal Caffara, qui a été le grand directeur de l'Institut Jean-Paul II pour les sciences de la famille, pour les études sur le mariage et la famille. Voilà. Donc, était un homme de confiance de Jean-Paul II, et qui est d'abord un théologien moraliste, c'est vrai, théologien moraliste. Voilà. Donc, les doubia, c'est une interpellation respectueuse de cardinaux qui demandent au pape une clarification de certaines expressions, mais sans mettre en doute la doctrine catholique de Amoris Laetitia, qui, je ne sais pas pourquoi, et là, j'avoue ne pas être très à l'aise avec ça, ont été placés sur la place publique, jetés sur la place publique. Donc ça, c'est pas une bonne chose pour moi, parce que ça crée un trouble et une confusion. Or, je ne pense pas que ces cardinaux avaient cette intention-là. Et puis, cette fameuse... alors, je ne sais pas à quoi vous avez fait référence exactement, mais...
C'est la pétition.
Oui, une pétition, une supplique.
Notamment Mgr Félix.
Voilà, qui a été signée par des... Alors, qui n'ont pas la même autorité que les cardinaux. Vous n'avez pas aucun évêque, et, à part Mgr Félix, qui est le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, ni aucun cardinal qui a signé cette supplique. Hein. Donc ça, c'est autre chose. Ils parlent d'hérésie, donc ils sont complètement à côté de la plaque. Moi, personnellement, j'ai eu déjà bien l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je ne suis pas du tout choqué par l'enseignement d'Amoris Laetitia, en particulier ce chapitre 8, qui est celui sur lequel on a le plus glosé, parce que c'est celui du discernement, de l'accompagnement et de l'intégration des situations dites irrégulières, même si j'aime pas beaucoup cette expression, et en particulier les fidèles qui sont divorcés et qui sont engagés dans une nouvelle union civile, ceux que l'on appelle vulgairement les divorcés remariés. Pourquoi je n'ai jamais été choqué? D'abord parce que l'enseignement qui est donné est parfaitement catholique. Il se situe d'ailleurs davantage sur le fort interne que sur le fort externe. C'est d'ailleurs un petit peu la nouveauté du discours. Et en plus, parce que je ne peux pas lire le chapitre 8 d'Amoris Laetitia en dehors d'un ensemble dans lequel il trouve sa place, toute sa place, mais rien que sa place, qui est consacré au mariage et à la famille. Et en gros, les deux fils conducteurs de toutes les exhortations apostoliques, c'est quoi? C'est l'amour véritable. Et donc l'amour véritable avec toutes ses exigences, sur lequel le pape a largement le temps de se répandre et de s'expliquer. Et puis, c'est la grâce du Saint-Esprit. Car comme dit le pape, sans la grâce du sacrement de mariage, il n'est pas possible d'accomplir et de rejoindre cet idéal, comme il dit, de l'amour véritable. Bon, qui peut être blessé dans certaines situations? Donc comment on va toujours avec en ligne de mire cet amour véritable et la grâce de l'Esprit Saint pour l'accomplir, comment on va accueillir, comment on va discerner les situations irrégulières pour leur permettre d'entrer sur un chemin de croissance. Car un des maîtres mots de ce pape, et qui fait partie de la grande tradition, en effet, de la chrétienne, de l'Écriture et des pères de l'Église, dont saint Thomas d'Aquin est vraiment un témoin exceptionnel, eh bien, c'est d'accompagner des processus de croissance vers un but qui est toujours l'amour véritable et qui ne peut pas être l'amour tronqué. Donc moi, je ne me suis pas du tout mal trouvé en lisant chapitre 8, d'autant plus que, si je lis bien chapitre 8, fondamentalement, il n'y a pas de différence avec ce que disait Jean-Paul II dans Familias Consortio et ce que disait Benoît XVI quand il était préfet de la Congrégation pour l'Ordre de la Foi pour l'accompagnement des personnes divorcées et mariées. On est toujours dans une optique de miséricorde, toujours dans une optique d'accueil, etc. etc. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a une insistance davantage dans le contexte d'aujourd'hui sur l'accompagnement et le discernement.
Alors pourquoi, d'après vous, il y a ces doléances d'une partie de l'Église quand
Parce
même.
Que, comme toujours, un texte est plus ou moins bien reçu à cause du contexte dans lequel il apparaît. Le contexte, n'oubliez pas que c'est deux synodes qui ont été traversés par des discussions qui ont eu lieu d'ailleurs davantage en dehors du synode que pendant le synode. Et qu'un certain nombre de lobbies, n'ayons pas peur des mots, un certain nombre qui voulaient en découdre au sein de l'Église, avec la tradition ininterrompue de l'Église, dans laquelle le pape ne s'est pas du tout situé dans une situation de rupture, au contraire, et aussi des milieux laïcs qui voudraient que l'Église évolue sur un certain nombre de sujets, en particulier sociétaux, eh bien, ont d'une certaine manière envahi l'espace public, et en particulier médiatique, dans la retransmission des travaux du synode, et ont obligé les gens à ne regarder qu'un aspect, qui était le problème de la communion et de la confession, l'absolution des personnes divorcées ou mariées, qui n'est pas le sujet premier que le pape traite dans cette exhortation, y compris dans ce chapitre 8. Donc du coup, ça crée un vrai malaise, parce que ceux qui étaient les tenants de la grande tradition de l'Église, eh ben, se sont heurtés à ce mouvement et pourrait pour certains avoir confondu l'exhortation apostolique et les conclusions du synode avec toutes ces revendications qui sont d'une certaine manière extérieures à l'Église et en tout cas extérieures au magistère. Voyez, donc je crois que ça a créé un monde de confusion. Et c'est vrai sans doute que dans son langage extrêmement pastoral, le pape peut avoir des formules qui peuvent être interprétées diversement. Et c'est vrai qu'après le synode, impressionné par tout ce contexte ambiant très confus qui a accompagné la publication de cette exhortation apostolique, eh bien, il y a pu avoir, y compris chez les évêques et chez des épiscopats entiers, des interprétations radicalement opposées. Donc dès qu'on a des interprétations contraires, contradictoires, d'hommes d'Église sur un texte du magistère, on peut se dire, y a un problème. Moi, je ne suis pas mal à l'aise du tout avec ce texte, et quand je vous entends dire ce qu'il a dit de fait au prêtre de Lyon, qu'on avait voulu éviter la scolastique décadente pour retrouver la vraie tradition thomiste, alors là, c'est mon cheval de bataille à moi, parce que j'ai fait mes études avec des dominicains à Fribourg, avec un dominicain qui s'appelle le père Pinkers, qui justement nous a montré que saint Thomas, son horizon, c'était l'écriture et les pères, et la scolastique baroque a, d'une certaine manière, restreint la compréhension de la morale évangélique à partir de critères qui ne sont pas chez saint Thomas d'Aquin.
Alors certains diocèses prennent des initiatives pour accueillir les divorcés remariés. Qu'est-ce qui se fait chez nous? Qu'est-ce qui va se faire chez nous?
Mais on accueille, nous aussi, les divorcés mariés. On n'a pas attendu l'exhortation apostolique. Moi, je suis prêtre depuis 35 ans. J'ai pas attendu à Maurice Laetitia. J'ai même pas attendu Familias Consortio. Si, je devais être prêtre c'était au début de mon ministère, pour accueillir les divorcés mariés. Je veux dire, c'est une vue de l'esprit, ça.
Cette exhortation, elle se met un peu en conformité avec ce qui se fait dans les paroisses déjà.
Alors, elle rappelle quand même des choses. Justement, non. Parce que quelquefois dans les paroisses, il se vit des choses qui ne sont pas du tout dans l'esprit d'Amoris Laetitia. Par exemple, quand on accueille des divorcés mariés sans discernement et qu'en plus on leur donne accès à la communion eucharistique sans réfléchir à leur situation et en plus sans les aider à entrer dans un chemin qui consiste quand même à vivre dans leur état l'amour véritable, tel que l'Évangile nous l'enseigne, eh ben, je pense qu'on est à côté de la question. Donc au contraire, Amoris Laetitia va nous aider sur le plan pastoral à être beaucoup plus sérieux dans l'accueil des personnes divorcées mariées.
Et la préparation au mariage aussi.
Et surtout dans la préparation au mariage. Alors, je n'ai pas encore donné d'orientation pour le diocèse, à partir de Amoris Laetitia, mais ça ne saurait tarder. Hein. J'essaie d'être justement à l'écoute de ce qui se dit et ce qui se fait dans l'Église universelle, mais ça ne saurait tarder.
Un autre sujet de société, Mgr Hayet, le Premier ministre a annoncé récemment que le gouvernement profiterait de la révision de la loi de bioéthique en 2018 pour y inclure la PMA pour toutes, donc en fait la PMA pour les femmes seules ou en couple avec une autre femme. Quelles sont vos craintes par rapport à ces évolutions et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien pour informer sur les risques de ces évolutions?
Les craintes, elles ont déjà été exprimées par l'Église hein, à plusieurs reprises, par diverses voix, y compris le canal 23 dans une interview récente au journal La Croix, et je pense que les évêques vont certainement aussi avoir une position commune, peut-être pas à cette assemblée plénière, mais assez vite, puisque la révision de la bioéthique est prévue pour 2018. Je sais déjà qu'il y a un groupe qui existait déjà pour les premières lois de bioéthique autour de M. Dornelas et de Mgr Aupetit, qui est le nouveau président du Conseil épiscopal pour la famille et la société, qui vont aider les évêques à avoir une parole et participer de manière autorisée à cette révision des lois de bioéthique. Pour nous, c'est évident que, d'abord, il y a une question politique qui est évidente. Quand on a parlé du mariage pour tous, on a dit qu'il n'y aura jamais de PMA. Et comme par hasard, maintenant, on dit que c'est forcé qu'il y ait de la PMA. Or, la PMA, procréation médicalement assistée, pour l'instant, est encadrée par les lois de bioéthique, en France, comme un moyen de suppléer aux carences, aux stérilités d'un couple hétérosexuel, par définition, parce qu'il faut un homme et une femme quand même pour faire un enfant, jusqu'à preuve du contraire. Et pour l'instant, c'est pour pallier une blessure, un manque au niveau de la nature. Donc, une question de stérilité. Aujourd'hui, on veut le généraliser comme si l'enfant était l'occasion était l'objet d'un droit. Donc on veut passer du droit de l'enfant au droit à l'enfant. Et on veut légaliser la possibilité de fabriquer, parce qu'il s'agit bien de ça, des enfants sans père. On sait qu'un enfant qui naît sans père est une difficulté, une souffrance. Et on trouvera forcément des moyens de pallier cette difficulté au plan familial et au plan social. Et c'est un grand défi, ça, dans notre société d'aujourd'hui. Car combien d'enfants souffrent de ne pas avoir de père, précisément, et de ne pas connaître leur père? Mais de là à légaliser cette possibilité, sous prétexte que des femmes qui vivent en couple désirent avoir un enfant, et donc leur désir, la naissance de l'enfant, qui ne connaîtra pas son père, alors que c'est un droit de connaître son père, qui aurait été fabriqué dans l'intention de ne pas avoir de père, en prétendant que la conjointe de leur mère ait le même statut que le père, ben j'estime que c'est une chose devant laquelle l'Église ne peut pas dire oui et ne peut pas dire que c'est un progrès pour l'humanité.
Vous parlez d'une parole commune des évêques. Alors pour le mariage pour tous, les évêques ont réagi à leur manière, mais différemment. Vous êtes allé aux manifestations.
Oui, quand même une majorité d'évêques qui ont...
Pour la PMA, vous pensez qu'il y aura plus de cohésion?
Je crois qu'il y a quand même une majorité d'évêques. Oui, je pense. Je pense qu'il y a une majorité d'évêques qui ont été opposés au mariage homosexuel. À peu près 70% quand même, qui ont fait des déclarations dans ce sens. Tous ne sont pas allés manifester, donc chacun pouvait se manifester, comme dit le cardinal 23, de la manière qu'il pouvait choisir. Mais sur la PMA, je vois difficilement comment l'Église pourrait avoir une opinion positive. Sans compter que la PMA, aujourd'hui on dit PMA, mais pas GPA, Mais comme c'est au nom du principe de non-discrimination, qui est d'ailleurs tout à fait mal compris, parce qu'on n'est pas dans des situations semblables entre deux femmes qui vivent en couple et un couple hétérosexuel qui n'arrive pas à avoir d'enfants, il n'y a pas de discrimination s'il n'y a pas d'égalité de positionnement, si vous voulez. Eh bien, on va dire, et pourquoi les femmes en couple pourraient recourir à un moyen technique pour avoir des enfants, alors que des hommes ne pourraient pas avoir le droit. Et alors, à ce moment-là, on arrive à la marchandisation du corps, hein, de la femme, pour pouvoir obtenir un enfant par gestation, par autrui.
Le président Macron dit qu'il est pour la PMA et pas pour la GPA.
Ben oui, mais ça veut dire quoi? Ce sont des paroles en l'air. Les mêmes ont dit qu'ils étaient contre la PMA et aujourd'hui sont pour. Le Premier ministre a toujours dit au départ qu'il était contre et maintenant il n'en fait plus une ligne jaune à franchir. Ça veut dire quoi? C'est de l'opportunisme. Excusez-moi de dire aussi, les choses aussi crûment, mais ça manque de fondation éthique quand même. Or, le problème, c'est toujours la dignité de l'enfant. Le droit de l'enfant avant le droit à l'enfant.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Radio La Pourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillet. Nous enregistrons cette émission le 19 octobre 2017. Alors, le 15 août dernier, le pape François a signé un message qui est le message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié du 14 janvier. Un message intitulé « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ». Ce message n'a pas laissé indifférent.
Non, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, tout dépend où il est reçu, c'est toujours pareil. Le pape, il parle au niveau de l'Église universelle. Nous, on a tendance, quand on écoute le pape, à penser à partir de là où nous sommes, c'est-à-dire dans un contexte européen ou franco-français, qui aujourd'hui est dans une situation pas très facile. On voit bien que les populations de nos nations européennes sont confrontées à cette question de l'immigration massive et avec les amalgames possibles, en liant cette immigration avec le terrorisme qui est à nos portes, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'on est dans un climat de surexcitation, de peur, qui forcément, formate un peu les esprits lorsqu'ils reçoivent un message pour la journée du migrant et du réfugié du pape François qui s'adresse à l'Église universelle et qui s'adresse pas seulement aux Français, aux Européens qui sont confrontés au problème de l'immigration massive.
Bon. Mais il pense quand même à l'Europe, le pape.
Bien sûr qu'il pense aussi à l'Europe. Il pense aussi à l'Europe. Mais il pense pas qu'à l'Europe. Pour vous donner, pour vous donner un exemple, quand il est revenu de Colombie, il a répondu aux questions. En particulier des Italiens qui, je crois, sont les premiers à avoir réagi à ce message du pape. Et il a apporté des nuances qu'il avait déjà données auparavant, qui permettent d'entendre aussi ce qu'il dit. Il a dit, mais attendez, quand un pays va recevoir des migrants, il va voir le nombre de gens qu'il peut intégrer. Parce que les mots, comme il le dit, qui sont principaux dans ce que j'ai dit, c'est protéger, c'est accueillir, protéger,
promouvoir
et intégrer. Bon, il dit, il faut voir le nombre de personnes que l'on peut intégrer. Un État peut très bien dire, ben non, là je peux pas aller plus loin que là. Il l'a dit aussi ça. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que le pape se situe au niveau de la charité évangélique. Et il peut pas dire autre chose, et je vais même aller plus loin après. Il ne dénie pas pour autant, et il l'a dit par ailleurs, et ça c'est au cœur même de la doctrine sociale de l'Église, aux pays et aux États et aux gouvernements à avoir une politique migratoire, ne serait-ce que pour pouvoir vraiment promouvoir et vraiment intégrer. Si on accueille sans discernement, on peut risquer de ne pas pouvoir intégrer. Et donc non seulement de ne pas intégrer les populations immigrées, mais en plus de détruire l'ordre d'une société qui n'est pas forcément prête à intégrer. Vous voyez, donc, il y a un texte, un message qu'il faut entendre pour ce qu'il est, et puis il y a aussi forcément des aléas sur lesquels le pape ne se prononce pas de manière négative. Mais ceci dit, je crois que ce qui est dit de manière très importante ici, c'est le pape a tout à fait conscience que ce problème de l'immigration ne pourra pas être résolu de manière politique complètement. Même ceux qui voudraient rester extrêmement protectionnistes ne pourront pas vraiment le faire. parce que la situation du monde est telle qu'il y a des situations d'inégalité entre le Nord et le Sud, et que tant qu'on n'aura pas aidé les pays d'origine à garder leurs ressortissants, ben on ne pourra pas résoudre le problème de l'immigration, qui reste un droit. Il est à la fois un droit d'immigrer et un droit de ne pas immigrer.
Ce que le pape a rappelé justement à la FAO.
Absolument, oui.
Où il dit que tant qu'il n'y aura pas la sécurité alimentaire, et puis.
Eh ben voilà.
Et tant qu'il y aura des guerres, commerce des armes.
Absolument. Tant qu'il y aura le conflit et le commerce des armes, tant qu'il y aura des difficultés alimentaires, eh ben, il y aura de l'immigration. Alors, il nous dit aussi ça. Il nous dit, mais vous, ça vous interpelle dans ce que vous êtes. Quand vous accueillez des immigrés de culture, pour pouvoir intégrer, parce que quand on parle d'intégration, et c'est très important cette expression qui est employée par le pape François, ça veut dire que vous ne pouvez intégrer que si vous avez une vraie culture pour intégrer. Si vous êtes une communauté identifiée dans des valeurs pour intégrer. Donc c'est une manière de nous renvoyer à notre identité. Et donc je trouve que c'est une manière tout à fait habile d'interpeller l'Europe et nos nations de vieille chrétienté en disant « Mais vous avez peur de quoi ?» Si vous avez peur, c'est parce que vous n'êtes plus ce que vous devez être. Vous accueillerez d'autant plus facilement, vous intégrerez d'autant plus facilement les différences que vous redécouvrez votre véritable identité. Or, notre identité, elle est chrétienne. Donc, non seulement elle nous donne un devoir de charité, mais elle nous donne aussi un devoir de témoigner de ces valeurs qui font notre identité chrétienne et qui sont dans l'Évangile. Et donc, qui nous met aussi en devoir d'annoncer l'Évangile à ceux que nous accueillons, que nous voulons protéger, que nous devons promouvoir et que nous sommes appelés à intégrer.
Alors le pape dit quand même qu'il est attristé par les communautés catholiques d'Europe par rapport à leur réaction finalement oui. sur l'accueil des migrants. Et c'est vrai qu'il y a quand même un rejet dans certains pays notamment de l'étranger, du migrant.
Alors il y a peut-être aussi des questions historique et contingente, c'est un document qui n'est pas le magistère infaillible de l'Église. Le pape ne peut pas connaître toutes les situations. Je pense à la Hongrie en particulier, puisqu'on peut faire référence à ce pays qui est beaucoup plus protectionniste, qui a quand même subi des occupations soviétiques jusque récemment, qui a quand même été brimé dans son histoire et qui peut avoir aussi des réflexes identitaire que on a moins raison d'avoir nous, voyez. Et je crois que la peur est aussi le signe qu'on n'a pas confiance en soi et donc qu'on ne sait plus qui on est. Et donc finalement, moi je crois que dans ce message, le pape, de manière à la jésuite précisément, parce que c'est un jésuite, donc c'est l'homme du discernement, de situations qui peuvent être parfois un petit peu en tension. Eh bien, il nous invite à découvrir pourquoi nous avons peur. Peur parce que on n'est pas en confiance et parce que peut-être qu'on est plus sûr de ce que nous sommes.
Nous inviter à être confiants sur notre culture et ceux qui arrivent alors, est-ce qu'ils doivent garder leur culture? Comment ils peuvent s'intégrer dans nos pays tout en gardant leur propre culture?
Alors c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a des cultures qui sont intégrables, d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins. Et c'est vrai que quand une culture vient de l'islam, il faut quand même oser le dire, même si le pape a raison de dire que les musulmans peuvent aussi changer, car des musulmans qui s'intègrent très bien. Il y a des musulmans qui sont parfaitement intégrés chez nous, mais qui ont du mal parfois du coup à s'intégrer parce que nous ne sommes plus, nous, suffisamment confiants dans notre propre identité. On ne peut accueillir l'identité de l'autre que si on est clair sur son identité, voyez. Et je pense que l'islam, s'il devient une conception de la société, est plus difficilement intégrable. Parce que la religion, c'est aussi un mode de vie social. Et ce mode de vie social pourrait être parfois incompatible, quand même, il faut le dire, avec les sociétés qui les accueillent. Le statut de la femme, la charia, un certain nombre de choses qui enferment dans un mode de vie qui peut être excluant de ceux qui ne vivent pas leur mode de vie. Voyez. Donc on est forcément attentif à cela.
Monseigneur Ayer, vous avez utilisé plusieurs fois le mot identité. Nous sommes dans une région où l'identité est forte, l'identité basque. Il y a aussi l'identité catalane dont on entend parler qui fait l'actualité ces jours-ci. Je rappelle que nous enregistrons cette émission le 19 octobre. Aujourd'hui, donc, il y avait un ultimatum du gouvernement espagnol vis-à-vis du président de la région catalane. Alors, comment l'Église se place-t-elle par rapport à cette question des identités et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Espagne?
Mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Alors, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu difficile à comprendre quand on n'est pas catalan et quand on n'est pas espagnol, mais c'est que la Catalogne, dans le principe d'autonomie régionale en Espagne, qui s'est établi un peu partout en Espagne, la Catalogne ne bénéficie pas d'un statut aussi enviable que, par exemple, le Pays basque. Ils n'ont pas l'autonomie de gestion économique, par exemple, que le Pays basque a. Et donc ils ont réclamé ça en 2012, je crois, et le gouvernement espagnol, pour des raisons que j'ignore, et là je ne peux pas rentrer tellement dans, ne connaissant pas suffisamment le dossier, mais qui m'étonne, le gouvernement central de Madrid a refusé cette autonomie économique que le Pays basque possède et que d'autres régions d'Espagne possèdent. C'est un mystère, hein. Alors c'est sûr qu'on pourrait être tenté de penser que le gouvernement espagnol a fait preuve de grandes maladresses qui ont exacerbé le sentiment de l'identité catalane au sein de l'Espagne, même s'il y a toujours eu, en effet, des inimitiés, hein, comme il y avait entre les Juifs et les Samaritains, entre les Catalans et les Espagnols de Madrid, vous voyez. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. Après...
L'épiscopat espagnol est divisé sur la question.
Oui.
Parce qu'il y a des évêques catalans qui appellent à l'indépendance. Ouais. Il y a même des prêtres qui ont mis des urnes lors du référendum dans leurs églises le 1er octobre. Ouais. Et puis il y a d'autres évêques qui sont pour l'unité espagnole. Pour
ouais.
l'unité
Moi, j'ai tendance à penser que l'Église n'aurait pas dû se mêler de manière aussi explicite de tout ça. C'est très compliqué. Hein. Le principe de l'unité nationale qui existe avant la constitution des régions autonomes en Espagne, fait partie d'un bien commun. Vous avez bien conscience qu'en Catalogne, aujourd'hui, il n'y a pas que des Catalans. Et il y a même une petite majorité de gens qui ne sont pas originaires de Catalogne. Donc ça pose un problème. Les mobilités au sein des régions en Espagne, comme en France d'ailleurs, hein, exige aussi que l'unité nationale soit un principe qui soit préservé. Qui est ensuite un principe d'autonomie culturelle, et même plus que culturelle, qui repose sur une identité infiniment respectable, c'est une chose. Jusqu'à briser l'autonomie, comprenez, le droit d'autodétermination des peuples qu'on a invoqué pour des populations qui étaient colonisées par des étrangers, c'est une chose. Le droit d'autodétermination d'une région qui est inscrite dans un tout, qui possède une unité où il y a une libre circulation des personnes, c'en est une autre. Mais je ne suis pas espagnol, je ne suis pas catalan, donc je ne serai certainement pas un expert et je n'aurai pas le dernier mot dans la résolution de ce problème.
Plus près de nous, au Pays Basque, on a évoqué ici même, dans cette même émission, le désarmement de l'ETA, le 8 avril dernier. Vous vous étiez expliqué par rapport à ce qui s'était passé avec Monseigneur Zuppi. Le 9 décembre prochain, il y aura une grande manifestation à Paris. La société civile est invitée à se mobiliser pour les droits des prisonniers basques. La communauté d'agglomération du Pays Basque, à l'unanimité, a voté une motion au gouvernement français. Je pense que vous suivez cette actualité. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, notamment à vos fidèles du Pays Basque, aux Basques, sur cette question de ce processus de paix qui est quand même un événement important. Aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2011 que les bombes n'ont pas parlé au Pays Basque. Donc je pense qu'en tant que pasteur qui prône la concorde et la paix, ça vous émeut ou ça vous laisse indifférent?
Ah, vous faites les questions, les réponses, là.
Je vous pose la question.
Donc ça m'est difficile de répondre, puisque vous avez déjà répondu à la question. Non, moi je garde la même ligne qui est la mienne. Pour tout ce qui est, entre guillemets, démarche ou stratégie d'ordre politique, je n'ai pas à y entrer. Moi je pense à la concorde et à la paix, bien sûr, avec tous et entre tous. Je sais que c'est un sujet sensible, un sujet brûlant. Je me réjouis, bien sûr, des avancées du processus de paix au Pays Basque. Je me réjouis que les bombes ne parlent plus au Pays Basque. Mais je suis obligé de penser à tous. Et je suis conscient, là encore, en communion avec mes confrères du Pays Basque du Sud, qu'il y a un ensemble de démarches à faire, qui sont de l'ordre là spirituel et qui ne me concernent davantage, qui sont des démarches de réconciliation et de pardon. Une chose est les prisonniers basques et leur sort, je comprends tout à fait, mais je pense aussi aux familles des victimes. Qui eux aussi peuvent penser qu'ils n'ont pas obtenu réparation pour tout ce qui était quand même acte profondément répréhensible à leur endroit. Donc moi j'accompagne comme tout citoyen ce qui peut se passer dans la société basque, mais là j'ai pas moi à prendre la tête d'un mouvement du rapprochement des droits des prisonniers basques.
Vous n'avez pas à les recevoir pour les entendre. Ah si. Leur souffrance,
j'ai, je me suis engagé, j'en ai reçu d'ailleurs déjà, hein, à recevoir des familles de prisonniers, des familles de victimes, parce que c'est des souffrances qui sont toutes à entendre. Mais je dis, dans une démarche d'ordre politique, je n'ai pas à y entrer.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mgr Marc Caillé, et à bientôt.
Voilà, merci.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Mgr Marc Caillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.